Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leur bottes.
Dans leur botte à 3 ans. 3 ans d'échanges, de discussions, de découvertes. Des kilomètres, des heures sur les routes, quelques égarements dus à un piètre sens de l'orientation, mais avant tout des rencontres, toutes plus riches les unes que les autres. Pour fêter ces 3 ans, nous avons décidé de rencontrer François Purseigle, sociologue de la ruralité reconnu dans le monde agricole. Il nous a semblé pertinent de mettre les constats, les étonnements que nous faisons au travers des portraits face à une analyse scientifique. Si François est un personnage atypique, c'est qu'ils sont peu nombreux à réfléchir sur ces questions. Attaché lui aussi viscéralement au monde agricole et à l'exploitation familiale oléicole, ensemble, nous avons discuté des participants de Dans leurs bottes et de ce qu'ils nous disent de ce monde agricole. Dans son bureau de l'ENSAT à Toulouse, nous avons échangé sur la déconstruction, la transmission et la recherche. Allez, on essaie ses bottes ? Bonjour François.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ?
Donc François Purseigle, 50 ans, je suis ingénieur agricole de formation, aujourd'hui professeur des universités en sociologie à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Dit autrement,
l'ENSAT,
l'Agro-Toulouse, voilà. J'y ai dirigé le département de sciences économiques, sociales et de gestion pendant un certain nombre d'années, et je travaille plus spécifiquement sur l'évolution du monde agricole, et plus particulièrement sur l'évolution en fait des structures d'entreprises agricoles.
D'accord, ok. Alors normalement, je demande de quel agriculteur es-tu, donc je veux dire quel sociologue es-tu.
Je pense que je suis un sociologue avant tout de terrain, comme disait le père fondateur de la sociologie rurale, Henri Mandras, il y a quelques décennies de ça. Je pense qu'un sociologue doit pas être bercé d'a priorisme doctrinaire, c'est-à-dire que finalement, il faut pas que ça soit la théorie pour la théorie, mais avant tout l'empirie, c'est-à-dire le terrain. Et je pense que je suis avant tout un sociologue de terrain, c'est-à-dire que j'aime bien aller voir des choses qui me dérangent aussi peut-être à titre personnel, mais qui me permettent de comprendre en fait finalement ce qu'est le monde agricole, ce que sont les agriculteurs aujourd'hui. Et l'objectif pour moi, c'est justement de me départir d'un certain nombre d'idées reçues, d'a priorisme aussi peut-être militant, pour essayer de comprendre aussi des réalités qui peuvent déranger, mais qui nous permettent d'avancer.
D'accord, ok. Autre question traditionnelle, je ne sais pas si tu en as, mais comment elles sont tes bottes?
Ah ben, elles sont souvent pleines de terre un peu caillouteuse, voilà.
Ok, alors, première question sur la sociologie, très naïve de ma part, puisque moi j'ai fait des études de droit, donc tout ça, ça me semble bien loin. Concrètement, ça sert à quoi la sociologie?
Ben, ça sert peut-être à orienter certaines politiques publiques, du moins je l'espère, ça sert à comprendre finalement comment des hommes et des femmes et leurs enfants, leurs familles s'organisent, vivent en société. La sociologie, c'est comprendre des phénomènes sociaux par d'autres phénomènes sociaux. D'accord. Comprendre finalement ce qu'est l'engagement au prisme de ce que sont les jeunes agriculteurs. Typiquement, ouais. Ça a été l'objet de ma thèse, que d'essayer de comprendre finalement comment l'engagement des jeunes agriculteurs se recomposait, se restructurait au regard des évolutions qui affecter en fait finalement les trajectoires des jeunes. D'accord. Voilà, c'est un peu ça la sociologie.
Ça veut dire on étudie la société et on regarde un phénomène particulier dans cette société.
Voilà, et on essaye de comprendre un phénomène social par un autre phénomène social. D'accord. C'est-à-dire, bah voilà, on s'engage comme ça parce que finalement les familles ont évolué comme ça.
D'accord.
Bon, je caricature, mais l'idée c'est de sortir aussi d'impressions. Qui relèverait plus de la psychologie. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment les agriculteurs, notamment, font groupe au sein de la société, comment ils se représentent politiquement, syndicalement, comment ils s'organisent en famille, comment, en fait, ils repensent leur projet d'entreprise. C'est aussi ça, la sociologie.
Et du coup, pour les communs mortels, enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est difficile de faire la nuance entre de la psychologie, enfin, de ce qu'on pourrait croire de la psychologie et ce qu'on pourrait croire de la sociologie. Du coup, il y a des liens entre les deux, ou finalement, c'est très clair et très établi que c'est pas du tout la même chose.
Oui, il y a des liens, ouais. Il y a des disciplines comme la psychologie sociale qui font aussi le lien entre sociologie, psychologie. Mais l'objectif pour nous, c'est de sortir finalement d'explications psychologisante ou qui relèverait uniquement de la compréhension de la trajectoire individuelle. On resitue toujours la trajectoire des individus dans des ensembles plus plus vastes.
C'est la aussi science du collectif, quoi.
Mais c'est, voilà, exactement. C'est la science des organisations, c'est la science de la représentation politique, la science de la manière avec laquelle s'organisent les entreprises. Comment finalement un chef d'entreprise dans une exploitation agricole organise le travail, tout simplement, et comment il l'organise en famille, mais aussi avec ses salariés ou avec d'autres organisations.
Et donc tu l'as dit, l'objectif, c'est, ça peut être d'orienter des politiques publiques. Est-ce que tu as un exemple à nous donner de choses sur lesquelles la sociologie a travaillé, peut-être trois, toi à titre perso, et qui s'est retrouvée dans une politique publique ou qui est en train de se retrouver dans une politique publique? Est-ce qu'il y a des liens déjà qui ont été faits?
Bah, il faut savoir que la sociologie rurale est née après-guerre, de la volonté de prendre en considération des évolutions qui affectaient un monde agricole qui était appelé aussi à se moderniser. Et un certain nombre de sociologues, comme Henri Mandras notamment, ont accompagné la politique de modernisation de l'état gaulliste qui se mettait en place.
Les lois Pisani des années, début des années 60.
Qui s'inspire aussi d'une certaine manière aussi d'un regard qui est avant tout celui des jeunes agriculteurs de l'époque, hein, il faut quand même l'admettre. Mais quand même, il y avait la volonté de comprendre un monde qui devait se moderniser. Et je pense que un certain nombre de politiques ont su et ont pu s'inspirer aussi des premiers travaux de la sociologie rurale française. D'accord. Entre les années 45 et 60, il y a eu énormément de travaux de réaliser, et notamment sur le plateau de l'Aubrac, hein, il y a eu des grands projets de recherche qui ont permis de comprendre finalement comment les sociétés paysannes évoluer et comment elles pouvaient ou devaient se moderniser. Et je pense que ça a énormément nourri de manière implicite aussi les positions, les discours politiques de l'époque.
D'accord, ok. Tu l'as dit, donc tu es ingénieur agronome, donc ça veut dire que tu étais parti...
Ingénieur agri.
Pardon, agricole, autant pour moi.
Précise.
Oui, non, c'est vrai que ça peut être un vaste sujet.
Tout à fait.
Comment est-ce que tu es donc parti sur des études plutôt scientifiques, d'ingénieur, donc plutôt de, on va dire, de la technique agricole, et comment tu es arrivé à une science plutôt, une science humaine, qui est la sociologie?
En fait, les chiens font pas des chats, et je pense que je suis aussi d'une certaine manière le produit d'une histoire qui est celle d'une famille agricole située en Occitanie, et j'ai vu mes parents travailler aussi sur l'exploitation, et notamment ma mère, et j'avais envie dans un premier temps de comprendre les cycles biologiques qui caractérisaient l'agriculture, et puis peut-être d'aller plus loin aussi, de comprendre en fait finalement l'histoire de cette profession dont j'étais issu, de ce milieu auquel j'étais profondément attaché, mais finalement que je n'avais pas choisi professionnellement. Puisque comme beaucoup d'enfants d'agriculteurs, j'avais entendu aussi ce discours un peu lancinant dans les campagnes, essaye de faire des études et puis
va faire
autre chose. Donc finalement, j'avais entendu ce message, mais j'étais quand même rattrapé par une passion autour de l'histoire, notamment du monde agricole. Je me souviens de ces années passées au lycée, où je lisais notamment les écrits d'Émile Guillaumin, un paysan bourbonnais, parce que du côté de mon père, on est plutôt issu du monde de l'élevage bourbonnais, donc auvergnat, et j'étais épris de cette histoire, et notamment de cette histoire des luttes aussi qui étaient celles des métayers à l'époque, ces luttes syndicales, d'où aussi mon sujet de thèse sur l'engagement des jeunes agriculteurs. On reviendra peut-être là-dessus, mais en fait, j'avais vraiment envie d'aller au-delà de la simple compréhension des cycles biologiques et de dire, finalement, l'agriculture, ce sont des femmes et des hommes qui se battent aussi pour préserver, une activité qui va pas toujours de soi. Et on s'arrêtera peut-être aussi sur cette question-là, mais finalement, l'agriculture, c'est aussi une construction politique, une construction sociale, c'est-à-dire que s'il y a des agriculteurs aujourd'hui sur les territoires, c'est parce que à un moment donné de l'histoire, on l'a voulu, mais c'est aussi parce que des femmes et des hommes se sont battus pour qu'il y ait encore des agriculteurs à l'échelle des territoires. Et donc, pour moi, c'était important, en tant que fils d'agriculteur, de participer à la compréhension de tout ça pour finalement laisser une trace, parce que même ils sont de moins en moins nombreux, il est important qu'un certain nombre de chercheurs continuent les étudier pour justement mieux les accompagner aussi dans certaines transformations.
D'accord, ok. Et donc, comment tu fais aujourd'hui pour, tu l'as dit, donc la méthode empirique, donc le terrain. Oui. Comment est-ce que tu fais concrètement pour maintenir un lien entre ton travail très scientifique que moi je vois un peu derrière un bureau avec des bouquins et un ordinateur, et malgré tout maintenir ce lien avec l'agriculture et les agriculteurs.
La sociologie, pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de terrain, c'est-à-dire voilà, c'est des prises de rendez-vous, c'est un travail parfois en immersion, même si quand on est enseignant-chercheur, on a moins le temps, mais finalement, le propre d'un enseignant-chercheur en sociologie, c'est de transmettre aussi ce qu'il voit de ce milieu, ce qu'il comprend de ce milieu, de ses évolutions, mais c'est aussi pour moi aller sur le terrain pour comprendre en fait finalement ce qui bouge, ce qui est déstabilisé dans des campagnes. Même si ça ne me plaît pas, j'essaye de voilà d'essayer de discerner ce qu'on va appeler des signaux faibles dans les campagnes françaises et notamment dans les entreprises. Donc il y a pour moi l'idée et je consacre grosso modo, je pense entre 2 et 3 mois par an aussi à des études de terrain, c'est d'aller au devant de certains signaux faibles, de certaines ruptures qui traversent le monde agricole pour justement anticiper certaines tendances. Et je l'ai fait notamment dernièrement en essayant de comprendre finalement pourquoi des chefs d'exploitation familiales jusqu'alors, eh bien, cherchaient à se transformer en patron d'entreprise de plus grande taille et comment ils devenaient aussi des managers qui ne disaient pas leur nom et comment s'organisait aussi le travail dans ce que j'ai appelé des firmes de production agricole.
D'accord, ok. Ok, donc c'est en maintenant un lien avec le terrain, ouais.
Avec le terrain, et puis des va-et-vient aussi sur l'exploitation familiale pour donner des coups de main aussi, même si ça relève pas du travail sociologique, mais l'idée de pas couper les ponts aussi avec ce que je suis aussi, finalement.
C'est quoi comme... Alors, je peux être que d'accord, parce que moi, je traite tous les dimanches soir, donc je vois bien de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il y a comme production sur l'exploitation de terrain?
C'est une petite exploitation oléicole.
D'accord, ok.
Donc, située dans l'Hérault, voilà, et donc... Ben voilà, il faut donner des coups de main aussi. Et puis pendant la crise de la Covid, on l'a vu, la résilience du modèle familial passait par la capacité qu'on avait à aller chercher aussi les enfants qui travaillaient pas toujours sur l'exploite pour faire des livraisons, tout simplement, aller donner un coup de main pendant la récolte, mettre en bouteille.
Et est-ce que du coup, il y a de temps en temps où tu regardes l'exploitation familiale en l'envisageant dans justement c'est ce collectif que tu étudies tous les jours? Est-ce qu'il y a des moments où tu les regardes un peu de côté en te disant tiens ils font ça, est-ce que c'est pas un signe faible, est-ce que
ça me permet de savoir toujours ou de me dire je sais pourquoi je fais de la sociologie rurale pour comprendre aussi pourquoi ça se déstabilise, ça se transforme. Mais j'ai fait le choix pour être le plus objectif possible de travailler sur finalement des objets de recherche qui s'éloignaient de la forme d'exploitation dans laquelle j'avais grandi. Oui. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de travailler plutôt dans des très grandes entreprises agricoles pour faire un pas de côté. Pour ne pas être enfermé dans des réalités qui se rapprochaient trop des miennes. D'accord. Je pense que c'est important aussi que, pour un chercheur, on fasse ce pas de côté, qu'on aille justement aller voir ce qu'on ne connaît pas. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais de la recherche, c'est-à-dire ne pas considérer que l'agriculture, c'est celle dont je suis issu. L'agriculture, c'est bien plus que ça. L'agriculture, c'est pas simplement la petite agriculture, c'est pas simplement les circuits courts, c'est aussi une agriculture que je connaissais pas, de grande taille, une agriculture qui est connectée sur des marchés internationaux. Et en fait, finalement, si je fais de la sociologie aujourd'hui, c'est aussi pour aiguiser ce regard-là, pour mieux comprendre la diversité de ce secteur auquel je suis attaché et de le regarder différemment.
Et est-ce que dans le cadre, du coup, il y a chercheur puis il y a enseignant. Donc, du coup, tu donnes des cours au sein de l'ENSAT sur peut-être ailleurs.
Essentiellement à l'ENSAT.
Ok, d'accord.
Essentiellement à l'ENSAT.
Est-ce que tu as dans tes cours le souci justement de transmettre évidemment toute la science qui s'apparente à ta matière, mais aussi cet attachement finalement qui est un peu viscéral et qui s'explique pas trop par de la science justement que tu as aussi pour l'agriculture?
Oui, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup faire des cours en première année à l'école devant en fait un parterre d'étudiants souvent issus des villes et des grandes villes et qui vient ici par amour. Des sciences du vivant, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ne connaissent pas forcément non plus le monde agricole, le monde rural, et je suis très heureux d'enseigner dès la première année pour leur faire comprendre que finalement ce sont des mondes, les mondes agricoles, les mondes ruraux dans lesquels ils vont pouvoir évoluer, apprendre plein de choses, des choses qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Donc pour moi c'est vraiment important d'une certaine manière de leur faire découvrir ce qu'est l'histoire. Et je commence mes enseignements dès la première année par une histoire de la profession agricole. D'accord. Leur faire comprendre comment on est passé du paysan au chef d'exploitation et comment aujourd'hui on passe du chef d'exploitation à finalement un entrepreneur aux multiples visages. Et je pense que c'est important de former, et je pense que Peut-être qu'ils ne finiront pas agriculteurs, rares sont ceux qui finiront agriculteurs, mais quand même, j'essaye de voir si y a l'idée chez eux, pourquoi pas, d'expérimenter ce secteur. Et aujourd'hui, je le vois, depuis 5 ou 6 ans, il y a de plus en plus de jeunes qui, dès la première année, nous disent « Oui, je suis issu de la ville, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi, en qualité de salarié, peut-être dans des organisations, aujourd'hui et demain, et après-demain, pourquoi pas sur une exploitation ?» Et donc, vraiment, moi, je fais ce métier pour transmettre aussi une part de ce que j'ai vécu aussi comme enfant d'agriculteur, mais aussi comme chercheur qui a envie de montrer que l'agriculture, c'est pas simplement non plus que des paysanneries, c'est aussi des mondes qui sont ceux de l'entreprise, faire comprendre que ce milieu qu'on critique souvent, est un milieu qui s'est profondément transformé et que il faut s'arracher d'un certain nombre de clichés, de caricatures. Et mon job aussi d'enseignant, c'est de déconstruire, et ça je pense que c'est le propre d'un travail de sociologue, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est de déconstruire finalement des clichés, des représentations, des images qui sont associées, là en l'occurrence à l'agriculture et au monde rural, pour faire comprendre que finalement les choses sont juste un peu plus compliquées que cette histoire un peu simpliste qu'on relate notamment parfois... dans certains écrits, dans la presse ou ailleurs, et qui finalement ne donne pas à voir la profondeur de ces transformations qui ont marqué un milieu auquel je suis attaché.
D'accord. Alors du coup, il y a plusieurs fois où tu as fait référence à l'idée de collectif, d'envisager la société, ou tout au moins un groupe à la société. On a tendance souvent à dire que la société elle est de plus en plus individualiste, que les gens sont de plus en plus... Enfin, voilà, c'est un lieu commun qui peut avoir des fondements ou pas. Est-ce que au niveau sociologique, ça complexifie le travail, la multiplicité des démarches, ou est-ce que finalement, ça le rend plus intéressant? Ça peut être les deux aussi.
Moi, ce que j'explique souvent aux étudiants, et j'aime aussi le réexpliquer parfois à certains jeunes agriculteurs ou à des professionnels, c'est que l'histoire de l'agriculture, elle est intimement liée à l'histoire des organisations et de l'action collective. Je pense que si on comprend pas ça, on comprend pas pourquoi l'agriculture s'est modernisée. Si on est passé des paysans aux chefs d'exploitation, c'est parce qu'il y a eu des organisations, et notamment des organisations de jeunes, qui ont pris en main leur destin. C'est-à-dire que on considérait qu'à un moment donné, c'était par le groupe qu'on allait avancer. Et ça, c'est important pour moi de l'expliquer aussi aux étudiants, et d'étudier ça aussi en tant que chercheur, de faire comprendre que finalement, il y a des ressorts collectifs à la transformation de tout un milieu. Il n'y avait pas eu les CUMA, s'il n'y avait pas eu les coopératives, s'il n'y avait pas eu les syndicats, je pense qu'on n'aurait pas aujourd'hui encore 400 000 chefs d'exploitation. Je pense que s'il n'y avait pas eu des organisations aussi collectives, l'agriculture ne serait pas métamorphosée comme elle s'est métamorphosée. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Alors aujourd'hui, ça veut dire que ces organisations, elles vont devoir évoluer différemment, et elles vont devoir muter. Forcément, c'est pas parce que ça a marché hier, comme disait Edgar Pisani, que il faut rien faire aujourd'hui et demain. Je pense que au contraire, c'est parce que ça a bien marché que finalement ces organisations sont invitées à se transformer. Et puis elles sont invitées à se transformer parce que les publics ont évolué, et que les publics et ceux qui feront l'agriculture de demain seront forcément différents. Et puis le rythme dans une organisation, le rythme de vie d'une organisation, les séquences autour des réunions, des meetings, des manifs doit forcément évoluer au regard des transformations qui ont cours. Donc c'est vraiment important de se dire que peut-être plus que tout autre milieu, les mondes agricoles ont été caractérisés par une capacité à s'organiser. Et c'est ce qui fait que, finalement, aujourd'hui, même si les agriculteurs sont une minorité dans la société, ils demeurent une force sociale et politique liée à ce secteur d'activité. Ils sont 1,5% de la population active, c'est chefs d'exploitation, et pour autant, ils sont dotés d'une force sociale et politique qui est liée à leur capacité à s'organiser. Et ça, je pense qu'il faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que, on peut être une minorité, mais c'est une minorité visible dans la société. Alors, bousculée, certes, on reviendra là-dessus. Mais malgré tout, c'est parce que ces agriculteurs ont eu la capacité de s'organiser, ils sont regardés et ils sont attendus.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tendance à nous faire croire que c'est pas uniquement par le côté essentiel de leur activité qu'ils sont une force visible, et pas par leur capacité à s'organiser, justement?
Alors, je pense que le regard qui est porté par la société sur les mondes agricoles et notamment sur les pratiques des agriculteurs en tant qu'individus sont très très variables. Hein. Mm. Il faut quand même l'admettre. Et je pense que les Français ne regardent pas le monde agricole et ses organisations comme ils regarderont les pratiques des agriculteurs. Bon, je pense que, mais c'est vrai qu'ils oublient aussi ces Français ce qu'ont pu représenter ces organisations, notamment à l'échelle des territoires, parce que finalement, les organisations professionnelles agricoles, c'est aussi des banques, ce sont aussi des groupes d'assurance, ce sont des organisations qui ont contribué aussi culturellement à faire évoluer les mondes ruraux hein, dans leur ensemble. Et ce sont aussi souvent, et ils sont encore 12% à être maires dans les communes, ce sont ces agriculteurs qui prennent des responsabilités aussi dans des collectifs villageois. Oui. Donc, et souvent, ça, par contre, c'est oublié.
Oui.
C'est oublié.
Ouais, c'est vrai. Tu l'as dit, du coup, on va passer un peu à la deuxième partie. Tu l'as dit tout à l'heure, auprès de tes étudiants, tu essaies de déconstruire les clichés. Nous, du coup, en 50 et quelques épisodes dans leur boîte, on en a quelques-uns clichés qui sont revenus. Donc, je vais citer quelques noms d'épisodes, contextualiser un peu. Peut-être que mes questions, il y en a qui vont relever de la psychologie et auxquelles on n'aura pas de réponse. Mais voilà, moi, j'ai du mal à faire la différence encore une fois. Donc, je suis désolée si c'est pas à propos. Le premier dont je voudrais parler, c'est Romain, qui, quand je l'ai interrogé, il avait parlé, finalement, on a tendance du poids de la reprise de la ferme familiale. Mmh. On a tendance à imaginer que c'est plus difficile pour quelqu'un qui est hors cadre familial. Mais finalement, ce poids de la responsabilité, il est fort aujourd'hui sur les jeunes agriculteurs, notamment, qui s'installent. Est-ce que ça a fait l'objet d'études? Est-ce que ça dit quelque chose du monde agricole? Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux m'en dire?
Il y a beaucoup à dire sur ce que sont les enfants d'agriculteurs et le poids qui pèse sur leurs épaules aussi quand il s'agit de reprendre aussi une exploitation dans laquelle ils sont désignés comme successeurs. Et là, j'invite aussi les auditeurs à replonger dans les travaux de Dominique Jacques-Jouvenot, qui est une professeure de sociologie émérite de l'Université de Besançon, qui a longtemps travaillé aussi sur ce poids qui est important, hein, qui est sur les épaules de ces jeunes, qui est un poids aujourd'hui peut-être différent de celui d'hier. Mais les enquêtes qu'on a pu réaliser, notamment dans le cadre d'un projet de recherche intitulé Farm Value, a montré que finalement on faisait plus de cadeaux aux enfants d'agriculteurs. Les parents font plus de cadeaux aux enfants d'agriculteurs. Alors il y a le poids moral et symbolique, qui est très fort, qui contribue largement aussi au malaise paysan. Mmh. Et là, j'invite aussi les auditeurs à regarder les travaux de Nicolas Desfontaines sur le malaise agricole, des travaux vraiment très très importants et majeurs selon moi. On nie le fait aussi que les parents font plus de cadeaux. Il faut rembourser les comptes courants associés, c'est-à-dire que, ok mon grand, tu veux reprendre l'exploite, mais il va falloir que tu payes aussi les comptes courants de papa et maman, et les frangins et les frangines, qui sont toubib ou prof à Paris ou à Rodez, font pas de cadeaux non plus à celui qui reste sur la ferme, une ferme qui est souvent considérée pour eux, par eux, comme un lieu de vacances et de résidence. Et c'est vrai qu'on oublie ces enfants d'agriculteurs qui sont quand même une majorité à reprendre des exploitations. Oui. Hein, il y a 30% de hors cadre et de plus en plus peut-être de non issus du monde agricole. Mais l'essentiel quand même des troupes de ces repreneurs, ce sont des enfants d'agriculteurs. Et on se méprend souvent sur le fait que pour eux aussi c'est difficile. Oui. Et il y a un coût d'entrée dans la profession parentale qui est pas forcément facile à digérer, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre eux, même si ils aspirent à reprendre le boulot sur l'exploitation, parfois disent non parce que il est très difficile aujourd'hui de vivre encore à 10 mètres de ses parents, parce que malgré les grands combats autour de la décohabitation des années 50 et 60, ceux qui font du terrain comme moi se rendent bien compte que parfois, la stabule, elle est encore à deux pas de l'exploitation dans laquelle il y a le père ou la mère qui vient te dire tous les soirs dans la salle de traite, mon petit, il va falloir que tu fasses ça et ça, parce que tu comprends, si tu fais pas ça, ça marchera pas. Donc, il y a aussi de la part des parents agriculteurs un travail à faire aussi de rupture autour de ces ambitions patrimoniales, parce que le problème c'est que l'agriculture française demeure une affaire de famille, et c'est parfois parce que c'est une affaire de famille qu'il n'y a pas de transmission familiale. Et je dis souvent, la famille est la première adversaire parfois de l'agriculture familiale. C'est pas la peine d'aller chercher la main du grand capital chinois ou je ne sais quoi. Les premiers adversaires parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps, parfois, ce sont aussi des parents qui n'aident pas forcément ou facilitent pas non plus la reprise. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est un élément qu'il faut pas mettre sous le tapis.
Ouais. D'accord. Bon, ça veut dire que ma question était bonne déjà.
Je pense, ouais.
Jérémy Desserles, quand je l'ai rencontré, m'a dit que les agriculteurs étaient des valeureuses personnes. Et ça, c'est quelque chose qui ressort toujours, la question des valeurs. Sauf qu'il n'y a jamais personne qui est capable de me dire qu'est-ce que c'est les valeurs du monde agricole. Donc, je te pose la question, qu'est-ce que c'est les valeurs du monde agricole?
C'est loin d'être simple. Des enquêtes que nous avions réalisées à Sciences Po Paris, où je suis chercheur associé au CEVIPOF, notamment... au moment de l'élection présidentielle, enfin des élections présidentielles successives, montrer que le travail était une valeur ou du moins un élément de la vie des agriculteurs qui constituait un ensemble de valeurs ou faisait valeur pour les agriculteurs. On avait aussi une ouverture sur le monde qui apparaissait comme plus marqué aussi chez les agriculteurs qui, pendant très longtemps, ont été fer de lance du projet européen, très enclins aussi à accompagner des projets de développement dans un certain nombre de pays du Sud. On a des agriculteurs qui étaient, et ça je pense que la matrice chrétienne y est pour beaucoup aussi, des agriculteurs qui pendant très longtemps dans les sondages ont été très réticents à l'égard de la peine de mort. Très ouvert aussi sur un certain nombre d'évolutions qui touchaient la société. Je pense que les femmes agricultrices et femmes d'agriculteurs y sont aussi pour beaucoup. Des valeurs peut-être centrées aussi sur l'entreprise, c'est-à-dire considérant souvent que seuls les agriculteurs alors ça aussi on pourrait déconstruire tout ça, ça me paraît important, sont porteurs aussi de valeurs de travail qui traversent à mon avis toute la société, mais c'est vrai que on a une profession agricole qui est quand même, quand on regarde bien les enquêtes d'opinion, moins conservatrice qu'on pourrait le penser. Beaucoup moins conservatrice qu'on ne pourrait le penser, beaucoup plus ouverte aussi sur des questions relatives aussi aux droits des populations étrangères. Ça peut apparaître comme contre-intuitif, mais oui, là où se situe quand même un élément central de ce socle de valeurs, c'est autour de la question du travail. Et de sa place dans l'entreprise.
Sachant qu'aujourd'hui, il y a pas mal de... Alors, je ne sais pas si c'est des scientifiques ou si c'est des personnes publiques qui remettent en cause le fait que le travail est une valeur.
Oui, exactement, parce que c'est un état de fait, c'est une réalité sociale, c'est une réalité économique.
Ça peut être une aliénation de la personne.
Exactement, et ça l'est, notamment dans les mondes agricoles aussi, où il y a des situations d'aliénation au travail. Hein, les agriculteurs eux-mêmes sont parfois, et leurs familles, aliénés à des conditions de travail qui sont pas simples, et les salariés aussi parfois. Pas que, mais tout à fait. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas considérer que le travail n'est qu'une valeur. Oui. C'est aussi une réalité sociale.
Sophie, donc qui est de l'Ariège, et beaucoup d'autres m'ont affirmé qu'ils ne pourraient pas exercer ce métier-là ailleurs que là où ils le font, et leur attachement au territoire. Du coup, qu'est-ce que ça dit du métier d'agriculteur?
Alors, ça dit quelque chose qui, à mon avis, explique pour une bonne part aussi les difficultés à installer, parce que finalement, on associe souvent l'insertion dans les métiers de l'agriculture à l'installation. Or, on voit bien que finalement, c'est quelque chose qui peut déstabiliser des publics plus jeunes qui ont commencé leur carrière dans le monde du salariat, mais il y a cette idée finalement, derrière l'agriculture, d'un réancrage. Il y a cette idée de sédentarité. Il y a cette idée que finalement l'activité agricole, alors que c'est pas forcément toujours le cas, serait non délocalisable. Bon, la question qui se pose aujourd'hui, selon moi, sociologiquement parlant, c'est de réinsérer l'agriculture à l'échelle des territoires, parce que finalement on a des agriculteurs qui sont convaincus, et notamment des jeunes générations, que ce travail-là ou cette production ne peut se faire que là. Mais pour d'autres publics, et notamment de ruraux ou des politiques, c'est pas quelque chose qui va de soi. Donc il y a quand même un enjeu à réinsérer l'agriculture dans des territoires. C'est quand même fou de dire ça en 2023. Oui. C'est l'agriculture par définition est profondément insérée dans les territoires, mais on voit que son insertion, ses modalités d'insertion peuvent être bousculées.
Oui. D'accord, c'est intéressant. J'avais été voir Christian Singla, donc membre de la RGT, qui a 61 ans, me disait qu'il était encore passionné de ce métier. Mais comment c'est possible, après 40 ans, d'être encore passionné de ce métier? Est-ce qu'il y a quelque chose chez les agriculteurs qui est de l'ordre plus de... Enfin, on a parlé de la valeur travail, mais il y a aussi la valeur... Enfin, il y a cette passion aussi qui est le corollaire un peu.
Oui, je pense que il y a, c'est un métier qui s'exerce aussi en extérieur. Il y a cette idée derrière de liberté aussi. Mmh. On parlait tout à l'heure de l'aliénation, mais au travail agricole parfois. Mais il y a quand même derrière le choix de ce métier l'idée qu'on est avant tout un homme libre quand on est agriculteur. Et ça, je pense que les agriculteurs, même à la retraite, ont du mal à s'en départir. Mmh. Et puis, en fait, il y a une telle coïncidence entre vie privée. Alors malheureusement parfois, hein, entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle, qu'on a du mal à se départir de l'activité professionnelle quand bien même on est à la retraite. Ouais. Et ce qui est une difficulté supplémentaire pour les enfants d'agriculteurs.
C'est ça, on y revient.
Mais c'est vrai que c'est aussi un métier passion, comme beaucoup de professions libérales, qui connaissent aujourd'hui des difficultés en matière d'installation. Ouais. C'est vrai des médecins. Hein.
Ah oui.
C'est vrai des médecins qui font du rab souvent, hein, qui continuent souvent leur activité parce qu'il n'y a pas de reprise. Ben, les agriculteurs, c'est pareil. Hein, continuent parfois leur activité parce qu'ils aimeraient bien qu'il y ait de la reprise. Et parfois, certains restent parce qu'ils se disent « Ah ben, il y aura le petit-fils qui va reprendre ou le neveu. » Donc, il y a la passion du métier, mais il y a l'idée aussi que parfois, la génération d'après va reprendre.
Ouais, justement, on avait discuté avec
Dominique Jacques-Jouvin.
Voilà, qui nous expliquait que la transmission, en fait, c'est ce qui est dur à entendre pour un agriculteur, c'est qu'en fait, on a réussi sa carrière une fois qu'on a transmis. Ça veut dire que tous les autres métiers vont réussir leur carrière parce qu'ils ont fait un bon coup, parce qu'ils ont fait une bonne année, parce que... Et en fait, l'agriculteur, il va falloir qu'il attende de plus être agriculteur pour avoir réussi sa carrière. C'est dur à entendre quand même.
Je pense que dans les nouvelles générations, parmi les jeunes qui s'installent, c'est peut-être un peu moins vrai. Ouais. C'est-à-dire que je rencontre souvent des jeunes qui me disent « Finalement, moi, mon ambition, c'est celle d'un chef d'entreprise qui a envie de mettre en place un certain nombre de projets, et pourquoi pas en couple, en famille ou avec un frangin. Mais finalement, on n'a pas forcément envie, quand on a aujourd'hui entre 30 et 40 ans, d'assigner ses propres enfants à un métier. » Je pense que ça bouge beaucoup. Mmh. Depuis maintenant 10 ans, et c'est vrai que on va considérer que l'agriculture était aussi une étape dans une carrière, et que finalement ce qui est quand même important, c'est voilà de mettre en place pourquoi pas de nouveaux circuits de transformation à l'échelle de la ferme, de mettre en place de nouveaux circuits de distribution, et que finalement ce projet, c'est avant tout le sien, et voilà, si ça devait s'interrompre, c'est pas si grave que ça. Mais c'est vrai que pour les générations nées entre 1930 et 1955-60, il y avait de ça, c'est-à-dire j'aurais réussi parce que j'aurais transmis. Chez les jeunes de moins de 50 ans aujourd'hui, ça change un peu.
Et est-ce que chez les plus de 50 ans, est-ce que ça revient passer 50 ans? Si ça revient après 50 ans, parce que ça s'approche ou...
Oui, je pense qu'il peut y avoir de ça, effectivement, mais il faudrait une enquête pour le démontrer.
C'est rigolo.
Ouais.
Dominique, qu'on avait été voir, nous a affirmé qu'un métier, ça se défend. Est-ce que l'agriculture, elle a besoin d'être plus défendue que les autres métiers?
Autant que les autres métiers, je pense que dans les sociétés contemporaines, la place de certains métiers ne va plus de soi. C'est aussi pour ça que les agriculteurs sont controversés, mais ils sont controversés non seulement parce que l'agriculture est une passion française, c'est-à-dire que je pense que la plupart des Français se pensent légitimes pour parler d'agriculture.
C'est comme l'enseignement.
Voilà.
Sous prétexte que tout le monde a été à l'école.
Exactement. Et on voit aujourd'hui que l'agriculture est bousculée par ces controverses. Et donc, finalement, il faut que les agriculteurs apprennent peut-être à défendre leur position sociale différemment. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas... je pense que les agriculteurs, comme les autres catégories socioprofessionnelles, doivent apprendre à défendre leur corporation, les droits sociaux qui les caractérisent, qui caractérisent leur vie sur les exploitations et dans les organisations, mais peut-être différemment d'hier. C'est-à-dire que il y a un siècle de ça, il y avait 10 fois plus de producteurs agricoles. Donc, il s'agissait pour les agriculteurs de se défendre selon des modalités qui étaient celles d'une majorité. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les agriculteurs apprennent à défendre leur pré carré différemment. Il faut qu'ils apprennent à défendre aussi leur profession comme toutes les minorités le font. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut se penser en minorité et en minorité agissante pour pouvoir faire en sorte que le reste de la société qui, ben voilà, finalement, est majoritaire par rapport au monde agricole, réapprennent ce qu'est l'agriculture, ce que sont les mécanismes qui font que cette agriculture, elle se doit d'être là, à l'échelle de certains territoires. Et ça veut dire qu'il va falloir user de formes d'action différentes. Alors, je pense que les agriculteurs n'ont pas attendu le sociologue que je suis pour faire évoluer leurs pratiques en matière de représentation politique ou professionnelle, mais je pense que c'est bon de le rappeler. C'est bon de rappeler que finalement, il n'y a pas une catégorie socio-professionnelle aujourd'hui. Les enseignants, corporation à laquelle j'appartiens, les médecins, les juristes sont tous on est tous confrontés finalement à des controverses. Ça veut dire qu'il faut repenser la place qu'on occupe dans la société et la manière avec laquelle on va finalement, non pas simplement défendre, mais expliquer son métier. D'accord. Et ça me paraît important.
D'accord, ok. Bon, Anthony, il avait parlé de liberté, mais du coup, on en a un peu parlé. Marina, du coup, que j'ai été voir, avait abordé, alors, comme on en a parlé avant d'enregistrer, mais le fait que, sur aujourd'hui, dans le milieu agricole, le doute, il pèse plus sur les femmes que sur les hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être constaté scientifiquement, que la projection dans ce métier de l'agriculteur, elle est plus évidente pour des, alors j'allais dire des garçons, parce que oui, à la fin de l'adolescence, on a peut-être encore un peu un garçon, que pour des filles, et que souvent, elles aboutissent à leur projet d'installation plus tard que les hommes.
Il peut y avoir de ça, même si je suis pas forcément un spécialiste de la question. Hein, je vous renvoie aussi aux travaux de Rosemary Lagrave, d'Annie Rieu, de Sabrina Dash. Il y a plein de choses à lire, notamment sur la place des femmes en agriculture, mais il est vrai qu'elles échappent pas finalement à ces doutes qui les traversent toutes quand il s'agit de prendre des responsabilités ou d'affirmer un projet face à un époux, face à un père, face à des responsables professionnels. Et c'est vrai qu'elles se posent beaucoup plus de questions, mais c'est aussi ça qui fait que finalement elles transforment aussi grandement l'agriculture à travers des projets qui apparaissent aujourd'hui comme assez répandus, mais ce sont elles qui ont introduit quand même le numérique, l'informatique en agriculture. Ce sont elles qui ont introduit finalement bon nombre d'outils de transformation et de commercialisation en circuit court. Donc voilà, l'histoire finalement donne raison aux doutes. De ces jeunes femmes, si tant est qu'elles en aient eu parfois.
Oui. Marie-Thérèse, d'ailleurs, elle dit souvent que c'est les femmes qui ont commencé les ateliers hors sol.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Il y avait ça. Maxime, il nous a. Alors, il y en a plusieurs qui ont dit ça. Quand je leur demande à partir de quand ils ont décidé qu'ils étaient agriculteurs, il y en a beaucoup qui parlent d'une évidence. Et du fait que finalement, ils n'ont jamais envisagé autre chose. Moi, j'avoue que, à titre personnel, je trouve ça très difficile de se dire qu'un enfant de 3 ans a la même envie qu'un adulte de 25 ans, professionnellement parlant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres métiers, cette notion, enfin, qui est largement répandue quand même, en agriculture, d'évidence de faire ce métier?
Ah, ça sera difficile pour moi de répondre,
mais c'est peut-être là où c'est limite.
Ouais, parce que finalement, j'ai pas mené de travaux comparatistes. Qui me ferait dire que c'est plus vrai en agriculture que dans d'autres professions. Mais je pense que la confusion parfois entre mode de vie, situation familiale et profession conduit peut-être aussi certains jeunes à considérer rétrospectivement, parce que finalement l'évidence, elle n'apparaît que rétrospectivement, je pense que c'est pas évident pour un tout jeune, voilà, de dire ouais c'est une évidence. Je pense qu'aujourd'hui en plus on a de nombreux enfants d'agriculteurs qui décident de reprendre la ferme après une expérience professionnelle plus ou moins longue, et que ce qui n'était pas une évidence apparaît comme une évidence quand on a 45 balais ou 50 piges et que on se dit non, on va pas le laisser quoi, c'est pas possible. Donc l'évidence. Elle apparaît peut-être parfois après des années de salariat, et tant mieux.
Et justement, on va pas le laisser. Il y a une dimension derrière, qui est difficile à leur faire admettre quand on discute avec eux. Ça relève aussi de l'attachement au territoire, mais il y a ce truc de, enfin, ce, on va pas le laisser, il est très symptomatique de l'agriculture, on va pas laisser la ferme, on va pas.
Oui.
Et en fait, est-ce que finalement c'est une contrainte qui s'impose à eux-mêmes ou est-ce que c'est un réel, enfin, on se demande si c'est vraiment juste patrimonial ou si c'est vraiment un métier, enfin, c'est un peu difficile à.
Je pense que ça peut être une contrainte et on le voit, hein, aujourd'hui dans les difficultés à donner accès à la terre ou donner accès à la profession, il y a de ça aussi. C'est-à-dire que, on est tellement attaché qu'on ne veut pas s'en séparer ou alors voir quelqu'un d'autre que celui qui serait issu de la lignée reprendre le flambeau. Je pense que parfois la vision patrimoniale, et j'en parle en connaissance de cause aussi, emprisonne parfois la construction du projet économique. Mais c'est vrai dans les familles d'agriculteurs où il y a une reprise même familiale. Hein,
oui.
C'est comme je le disais tout à l'heure, hein, ça peut être... finalement, un enfant d'agriculteur qui est prisonnier de la vision patrimoniale de ses frères et de ses sœurs, qui ne voit dans la cour de ferme que un lieu de villégiature et pas forcément un lieu où il y aura des tracteurs et où la moisse batte va pouvoir être stationnée le temps des vacances, quoi. Donc parfois, ce projet patrimonial, il emprisonne la construction du projet économique. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Je pense qu'il faut que la profession soit vigilante. Il faut que la vision patrimoniale soit au service de l'ambition économique.
Ouais.
Et pas l'inverse. Je pense que ça a été quand même tout le combat, ou du moins de Michel de Baptiste, dans Raymond Lacombe, que de faire en sorte que finalement les paysans se départissent d'une vision patrimoniale qui emprisonnait leur capacité à construire un projet économique leur permettant de se moderniser. Et c'est parce qu'ils ont justement su se départir d'une vision qui était trop peut-être centrée sur la famille élargie, pour faire de l'agriculture aussi un projet de couple, qu'ils ont réussi.
D'accord, ok, c'est intéressant. Deux petites questions encore, j'avais été voir Cyril et Baptiste, qui étaient tous les deux installés hors cadre familial complet, et qui avaient tous les deux mis en avant la position de leur... et salué la position, le positionnement de leur cédant par rapport à eux, en disant qu'ils avaient pris un peu de distance, mais en restant quand même disponibles aux questions. Est-ce que finalement, c'est ça la position idéale que devrait avoir quelqu'un qui cède son exploitation, se rendre disponible, mais ne pas s'imposer?
Je dirais être à juste distance, c'est-à-dire être là pour donner un coup de main, ça va de soi, ne signifie pas pour autant cohabiter avec celui à qui on a filé les clés de la stabu et de l'étable ou du champ, quoi. C'est vrai que voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ça.
D'accord. Et la dernière, c'est j'avais été voir Jessie qui a fini sa carrière mais qui était rugbymaine professionnelle. Qui a fait le chemin inverse de ce qu'on entend certains de dire « j'ai décidé de pas m'enfermer sur ma ferme, donc je vais à l'extérieur ». Elle était à l'extérieur et elle a ressenti le besoin de revenir sur la ferme.
Mmh.
Mais bon, finalement, ça dit quelque chose, on en parlait un peu tout à l'heure, de l'ouverture au monde. Est-ce que le milieu agricole, c'est un milieu où, particulièrement, ou peut-être pas d'ailleurs, les professionnels ont besoin de sortir un peu de leur profession pour réussir à y être confortable?
Oui. Je pense que c'est important de prendre l'air quand on est agriculteur. Et je pense que les jeunes générations oublient trop souvent, parce qu'elles sont parfois assez critiques à l'endroit de certaines organisations, considérant que l'organisation, c'est simplement des réunions qui prennent du temps sur le reste du taf et du boulot. Mais en fait, finalement, ce sont aussi des espaces de respiration, ces réunions, des lieux où on apprend. C'est ça qu'il faut aussi expliquer à ceux qui sont en lycée agricole et qui s'installent, que de dire... en fait, être agriculteur, c'est pas être assigné à une salle de traite, c'est justement être en capacité. Alors c'est pas évident, hein, c'est pas évident, hein, loin s'en faut, de pouvoir faire des va-et-vient. C'est aussi comme ça qu'on attirera dans cette profession, en expliquant que finalement l'agriculture, c'est une activité prenante, extrêmement prenante en termes d'organisation du travail, mais dont on peut s'échapper parce que pour le coup, les organisations professionnelles, à travers leur histoire, ont mis en place des dispositifs qui peuvent le permettre. Et je pense que on a, comme tu le soulignais, des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui sont rattrapés par cette histoire et qui vont considérer que finalement leur histoire elle est là et donc il faut à nouveau y revenir.
Oui,
il faut à nouveau y revenir, mais on y revient d'autant plus facilement qu'on sait qu'on pourra justement faire des va-et-vient. Voilà, ça je pense que c'est important de considérer que l'agriculture n'est pas un lieu d'enfermement, mais un lieu d'ouverture.
D'accord, ok. C'était hyper intéressant. On va passer aux toutes petites questions traditionnelles que je pose toujours à la fin. Alors, il y en a quatre tac au tac.
D'accord.
Quel est le dernier film que tu as aimé?
Le dernier...
Ou la série. Film ou série.
Bon, j'ai beaucoup aimé Borgen. Ça m'échappe, mais ça va me revenir.
Ok, bon, on le refera. Le dernier achat que tu as fait pour ton métier?
Ouh, des livres, je crois.
Alors, quels livres, du coup?
Bon, des livres de sociologie, du travail, je crois. Un dernier livre qui est paru aux presses de Sciences Po sur que sait-on du travail.
D'accord. La dernière musique que tu as fredonnée?
C'est celle d'un chanteur qui s'appelle Mehdi, que j'aime bien, qui est assez rythmé. Mais là, je vais pas,
ça suffit, je vais pas
la fredonner.
Et la dernière recherche Google que tu as faite?
Comment utiliser Canva pour faire une brochure, pour donner un coup de main aux parents.
D'accord. Le dernier film, c'est revenu ou pas?
Non, alors, j'ai beaucoup aimé la dernière saison de Sex Education.
Ouais. Ok. Ouais, pas mal, effectivement. Est-ce que t'es fière aujourd'hui?
Ouh, difficile!
Comme le feu sur la soupe, celle-là, elle est très efficace.
Oh, non, je suis très heureux de faire le métier que je fais, surtout, la fierté, elle est souvent mal placée, mais je suis en fait d'une certaine manière un peu fier de continuer à travailler sur ce monde agricole qui m'a vu naître et dont j'ai du mal aussi d'une certaine manière à m'arracher.
Ouais, d'accord. Comment est-ce que tu t'y sens dans tes bottes?
Ah, je m'y sens bien et j'ai envie en fait de les utiliser encore pour faire beaucoup de terrain parce que l'agriculture, les agriculteurs, leurs entreprises, ont beaucoup de choses aussi à nous dire de l'évolution de la société au sens large.
Ok, merci François.
Merci.
On peut avoir choisi de devenir sociologue mais conserver un lien avec ses racines agricoles. On peut avoir une vision du monde agricole mais avoir la rigueur scientifique d'aller étudier des modèles différents. On peut faire de son rôle d'enseignant une mission de déconstruction des clichés auprès des étudiants. Enfin, on peut avoir un travail intellectuel de recherche, mais ne l'envisager que par le prisme de l'étude de terrain et du contact avec les agriculteurs. C'est ça, être sociologue aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt dans de nouvelles bottes.
1, 2, 3, 4.
Ouais, c'est bon.
Ouais, c'est bon.